Et nous sommes en direct de Berlin, de l'Institut français, avec ma camarade Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Guten Morgen, Guillaume.
Oh, bonjour
à tous. Et dès le début de ce journal, nous accueillerons Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture en Allemagne, pour faire le point sur cette fin de campagne législative outre-Rhin. En quelques mots, Angela Merkel, indéboulonnable avec un chômage au plus bas. Mais les populistes sont aux portes du Bundestag. Le tableau n'est pas si beau, nous dira Valérie Crovard.
Et dans ce journal également, nous irons en Corée au Nord. Kim Jong-un rend coup pour coup à Donald Trump avec le même vocabulaire presque enfantin. Menace gravissime, il évoque l'essai d'une bombe à hydrogène dans le Pacifique.
En France, la mobilisation contre la réforme du droit du travail semble s'être un peu essoufflée hier. Moins de monde dans les rues, alors que les ordonnances seront signées aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Et puis, Liliane Bettencourt est morte. L'héritière de L'Oréal laisse un empire et le souvenir d'affaires politico-judiciaires. Elle avait 94 ans.
La France Culture à Berlin ce matin pour les législatives donc, mais il y a d'autres élections importantes ce week-end en France. Frédéric Seitz y reviendra dans le billet politique à 8h16. Dernier jour de campagne, donc ici en Allemagne. Dernier grand meeting ce soir à Munich pour Angela Merkel, à Berlin ici même pour Martin Schulz. Les portraits des candidats sont accrochés en 4x3 partout dans les villes, à Berlin notamment où nous nous trouvons, sur les poteaux des lampadaires en bord de route. Fin d'une campagne législative qui n'aura, il faut le dire, pas soulevé les foules. La chancelière Angela Merkel a, ces dernières semaines, tué le suspense de façon très habile. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Berlin, vous avez suivi la campagne. La chancelière se dirige donc vers un quatrième mandat. Leader du parti conservateur, la CDU, elle a largement distancé son principal adversaire, le social-démocrate Martin Schulz, ancien président du Parlement européen. Il n'a pas tenu la longueur et la pragmatique Angela Merkel en a profité, Cyril.
Mais c'est à peine si la chancelière a eu besoin de faire campagne. Jamais elle n'a semblé mise en difficulté. Tous les sujets qui fâchent, la précarité, les retraites, la politique migratoire, ont été à peine effleurés, comme si les Allemands préféraient se dire « Jusqu'ici, tout va bien. Les chiffres de l'économie sont bons, les caisses de l'État sont pleines. Alors, pourquoi changer de chancelière alors qu'elle incarne une forme de stabilité et que l'Allemagne s'en sort plutôt mieux que le reste de l'Europe ?» C'est tout le drame de Martin Schulz, qui comptait marquer des points sur le social en pointant les limites du miracle économique allemand. Mais le candidat SPD n'a pas su convaincre qu'il incarnait une autre voie, le prix peut-être de 4 années de grande coalition. Avec qui gouvernera Angela Merkel ? C'est ça, la vraie inconnue. Plusieurs configurations sont possibles. Une nouvelle grande coalition, une alliance avec les libéraux du FDP ou peut-être avec à la fois les libéraux et les écologistes. La couleur de cette coalition conditionnera les choix du prochain gouvernement Merkel, notamment vis-à-vis de l'Europe et de la relation franco-allemande.
Une campagne donc atone, on l'a bien compris. Elle profite aussi à l'AFD, Alternative für Deutschland. Le parti populiste anti-immigration se prépare à entrer au Bundestag.
Avec 10 à 12% des intentions de vote, l'AFD pourrait se retrouver avec une cinquantaine de députés. Alors l'entrée d'un parti d'extrême droite au Parlement est un symbole très fort. C'est une première dans l'histoire de la République fédérale. C'est la confirmation que l'AFD est en train de s'ancrer dans le paysage politique. Depuis sa création en 2013, le parti a fait son entrée dans la quasi-totalité des parlements régionaux et il a su imposer l'idée que lui seul pouvait s'opposer à la politique menée à Berlin. Alors cette campagne atone que vient de vivre l'Allemagne a alimenté le ressentiment d'une partie des électeurs qui se reconnaissent dans les slogans choc de l'AFD qui attaque Angela Merkel de front. L'extrême droite n'a pas d'alliés, elle sera donc cantonnée à l'opposition, mais le Bundestag va lui donner une formidable caisse de résonance. Et l'AFD entend bien s'affirmer comme la véritable alternative à Angela Merkel.
Merci Cyril. Cyril Sauvageau, notre correspondant à France Culture à Berlin. Élection donc dans 2 jours, dimanche. Angela Merkel, indétrônable. Et comme pour convaincre un peu plus, un peu mieux les électeurs allemands, son ministre des Finances publiait hier ses prévisions de croissance. Une progression solide, dit-il. Les années Merkel ont globalement, visiblement apaisé le pays ces 15 dernières années. Et pourtant, tout n'est pas si rose. Si l'Allemagne va bien, les Allemands ont de réels sujets d'inquiétude. Bonjour Valérie Crovard.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue dans une des grandes villes en Allemagne ces derniers jours pour le magazine de la rédaction et vous vous en êtes rendu compte. Il existe une face cachée du modèle allemand.
Une face cachée qui ne se dissimule pas malgré les bons chiffres mis en avant par la chancelière. Une croissance de 1,9%, un chômage historiquement bas à 5,7% qu'elle veut ramener à 3%. La paupérisation d'une partie de la population est bien réelle. La flexibilité du modèle allemand a certes fait baisser les chiffres du chômage, mais elle augmente aussi la précarité. À Cologne, où je me suis rendue, on voit beaucoup d'affiches sur les boutiques proposant des emplois à 450 euros. Ce sont des mini-jobs, des contrat à temps partiel payé au SMIC allemand, c'est-à-dire à 8 euros par heure. Le problème, c'est que ces emplois ne bénéficient pas de la protection sociale qu'offre un CDI. L'ascenseur social a été cloué au sol par les réformes Hartz adoptées dans les années 2000 qui visaient à assouplir le droit du travail. Dans les faits, les inégalités n'ont cessé de se creuser. L'Allemagne est l'un des pays de l'OCDE où les inégalités ont le plus augmenté depuis les années 2000.
Et qui pâtit de cette situation ?
Et bien surtout les jeunes et les personnes peu formées et bien sûr les retraités. Vous savez que l'Allemagne est un pays vieillissant. Le nombre de décès est supérieur à celui des naissances depuis les années 70. Du coup, la proportion d'Allemands de plus de 65 ans devrait franchir la barre des 30% d'ici 2040. C'est une véritable bombe à retardement. Il faut savoir que dans l'Allemagne d'aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes âgées vivent déjà avec moins de 900 euros par mois, c'est peu. Certains retraités doivent aller dans les centres dits Tafel, l'équivalent de nos restos du cœur pour faire leurs courses. Il y en a 900 dans toute l'Allemagne. D'autres s'organisent de façon à trouver des jobs pour arrondir leur retraite. De tout cela, nous reparlerons ce soir.
Dans le magazine de la rédaction, merci Valérie Crova. Votre reportage en longueur, donc, à écouter à partir de 17h sur France Culture. Des nouvelles du monde ce matin également. La guerre des mots se poursuit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Kim Jong-un, qualifié de « rocketman » par Donald Trump en début de semaine. La menace d'une intervention militaire également et de nouvelles sanctions économiques décidées hier par Washington, Bruxelles, mais également Pékin. Et puis cette nuit, réponse de Pyongyang dans un communiqué très inhabituel rédigé à la première personne par le dirigeant Kim Jong-un. Communiqué qu'a pu lire Frédéric Ojardias, notre correspondant au sud, à Séoul. Il laisse présager des futurs coups d'éclat de la part du Corée du Nord.
Trump m'a insulté, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier. Kim Jong-un a répondu personnellement au président américain dans une déclaration sans précédent diffusée par le quotidien des travailleurs, le journal officiel du régime. Qualifié d'homme fusé par Donald Trump, le leader suprême nord-coréen menace de dompter par le feu le vieux malade mental américain. Au lieu de me faire peur, les menaces de Trump m'ont convaincu que le chemin que j'ai choisi est le bon et que je dois le suivre jusqu'au bout, conclut Kim Jong-un, qui promet des représailles de plus haut niveau. En visite à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, Lee Yong-ho, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, a précisé que ces représailles pourraient consister en un essai de bombe à l'hydrogène dans l'océan Pacifique, ce qui représente une menace inédite et gravissime. Les 6 essais nucléaires nord-coréens ont tous été souterrains. Ces échanges incendiaires montrent que les bravades de Donald Trump à l'ONU sont totalement contre-productives. Elles offrent à Kim Jong-un une tribune qui le met à pied d'égalité avec les États-Unis. Elles lui permettent aussi de justifier son programme nucléaire et de renforcer son pouvoir en interne en rassemblant sa population autour de la menace américaine.
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU également, ce rapprochement remarqué et cette phrase, il gouverne une partie du monde très difficile. Franchement, il mérite de bonnes notes. Le professeur, c'est Donald Trump. L'élève qui reçoit le bon point, c'est Recep Tayyip Erdogan. Ankara et Washington entretiennent pourtant des relations difficiles, notamment en raison du soutien apporté par les États-Unis aux forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes en Syrie. Et au chapitre international encore, le Conseil de sécurité de l'ONU dit non au référendum d'indépendance du Kurdistan irakien et à son impact, je cite, potentiellement déstabilisateur, alors que des opérations contre Daesh sont en cours. La consultation doit avoir lieu lundi prochain. L'ONU propose plutôt d'aboutir d'ici 3 ans à un accord entre Bagdad et le Kurdistan irakien sur le statut de la région autonome. Pas question de renoncer à ce référendum-ci sur l'indépendance de la Catalogne dimanche prochain, le 1er octobre. C'est en tout cas le président du gouvernement catalan qui l'assure. Hier soir, des milliers de manifestants se sont encore rassemblés dans le centre de Barcelone, alors que Madrid considère toujours la consultation comme illégale. La Cour constitutionnelle a infligé de lourdes amendes à 24 personnes impliquées dans l'organisation du scrutin.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 8h09, c'est le journal de Clara Lecoq Réal depuis le coup d'âme, depuis les Champs-Élysées de Berlin. Détour en France, Clara, on manifestait hier.
La démocratie, c'est aussi dans la rue. Voici l'un des slogans des opposants hier à la réforme du droit du travail. Réponse à Emmanuel Macron, qui estime le contraire. Ils étaient 130 000 selon les autorités, des centaines de milliers, dit la CGT. majorité à Paris, Rennes, Nîmes, Marseille ou Caen. Mobilisation en chiffres deux fois moins importante qu'il y a 10 jours. Mais les syndicats multiplient les fronts. Grève reconductible annoncée lundi par la CGT et FO Transport. D'ici là, demain, auront lieu des rassemblements de la France insoumise. Les ordonnances pour réformer ce droit du travail, elles, seront adoptées aujourd'hui en Conseil des ministres. Et certaines mesures vont très vite entrer en application, Isabelle Chaillot.
Une fois signées par le chef de l'État, les ordonnances seront publiées dans la foulée au journal officiel, au plus tôt dès demain, au plus tard en début de semaine prochaine. Et la plupart des mesures prévues par cette réforme du Code du travail entreront en vigueur dès le lendemain de leur publication. C'est le cas du plafonnement des dommages et intérêts au prud'homme, du recours au référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés ou encore de la possibilité de négocier des accords sans représentant syndical élu dans les PME de moins de 50 personnes. Mais d'autres dispositions nécessitent des décrets d'applications qui seront pris dans les semaines qui viennent. Par exemple, la fusion des différentes instances représentatives du personnel en un organe unique. C'est un décret qui fixera les moyens alloués à cette nouvelle instance. Un sujet ultra sensible pour les syndicats, mais sur lequel il y aura des concertations, assure le ministère du Travail. Quant au contrat de chantier, ce CDI à durée déterminée, les entreprises ne pourront pas y recourir tout de suite. Il faudra d'abord que les branches professionnelles, les secteurs d'activité concluent des accords, des négociations qui prennent généralement des mois.
La contestation sociale n'est peut-être pas finie. C'est justement hier, journée de mobilisation sociale, qu'avaient choisi près de 2000 CRS pour se faire porter pâle. Ils dénoncent en fait la fiscalisation de leurs indemnités d'éloignement. Alain Gastal.
C'est de 2015 et du début de la vague d'attentats que date également la dégradation des conditions de vie des CRS. Olivier Candil évoque le suremploi des compagnies avec 200 à 240 jours en déplacement chaque année pour la plupart de ses collègues.
On a été obligé de faire immobiliser des véhicules qui n'étaient plus en état de rouler, de refuser des casernements dans lesquels des collègues sont tombés malades, ont été atteints de légionellose, d'autres ont ramené des maladies à la maison, la gale en particulier. Donc forcément, lorsque le 21 juillet, notre ministre de tutelle, notre directeur général, nous annonce qu'en plus, on va nous taper dans le porte-monnaie, la grogne a commencé à monter. Et la grogne, aujourd'hui, vu le peu d'intérêt qui nous est porté de la part du ministère, aujourd'hui, ça devient de la colère.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est donc la fiscalisation des 39 euros quotidiens de primes de déplacement. C'était justement la compensation des petites misères du quotidien. Mais on comprend vite que le malaise va bien au-delà.
On est là pour aider la France, on est le dernier rempart de la République, hein, on oublie souvent de le rappeler. L'État nous doit une chose, c'est la protection. Si on ne protège pas aujourd'hui nos policiers, comment on va protéger nos concitoyens demain ?
Un reportage d'Alain Gastal pour France Culture. Au Front National, exit Florian Philippot. Voici David Racheline. Le sénateur maire de Fréjus remplace l'ex-numéro 2 du FN à la tête du pôle communication du parti. Elle laisse derrière elle l'empire L'Oréal et une fortune immense. Liliane Bettencourt est morte hier dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, au nord de Paris. Fille du fondateur du groupe de cosmétiques, elle était la femme la plus riche du monde. 40 fois milliardaire, sa fortune n'a cependant pas suffi à la protéger totalement. Sa fin de vie ressemblait plus à un manuel de procédure juridique. Diminuée par la maladie, placée sous tutelle, son nom a, ces 5 dernières années, été associé à l'affaire Bettencourt, ouverte à l'origine pour un abus de faiblesse aux dépens de l'héritière. Avant cela, c'était avant tout une femme discrète, Delphine Evenoux.
Brushing impeccable, carré de soie et lèvres maquillées, Liliane Bettencourt arbore l'allure de son statut social, celui qui lui a permis de fréquenter Coco Chanel et les Pompidou, une vie mondaine mais fuyant micros et caméras. L'œuvre de sa vie, c'est celle de son père adoré qui l'a élevé seul.
Le temps n'est plus où la coiffure s'improvisait dans un salon de quartier.
Eugène Schuller, créateur de L'Oréal, envoie Liliane 15 ans en stage dans ses usines.
Les plus grands laboratoires capillaires d'Europe.
Pendant 50 ans, la milliardaire actionnaire garde le temple depuis les bureaux feutrés du conseil d'administration. Sa voix, troublée par une surdité partielle depuis l'enfance, se fait publique en 2010. Affaire Bettencourt, elle accueille Claire Chazal dans sa propriété fétiche de l'Arc Ouest en Bretagne pour se défendre.
Je suis discrète. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être discrète ? Clamer quoi ? Les gens clament pour moi.
Ça vous dérange ?
Disons, inversement, ça ne m'arrange pas.
Face caméra, elle envoie aussi des messages à sa fille unique, Françoise, qui ne lui parle plus.
Comment voulez-vous ne pas souffrir ? C'est même beaucoup plus que ça, c'est déprimant.
Mais les largesses aux proches, elle ne les regrettera pas, comme au photographe François-Marie Bagné, qui lui apporte cette fantaisie qu'elle aime tant.
Qu'importe, on est très généreux, et bien on est trop généreux, et puis merde.
Non.
Féru d'art, de cinéma, la discrète Liliane Bettencourt aura malgré elle fini sa vie héroïne d'un grand feuilleton politico-judiciaire.
Et hier, la justice rendrait d'ailleurs sa dernière décision de non-lieu dans l'affaire des enregistrements clandestins réalisés par l'ancien majordome de Liliane Bettencourt. La météo à Berlin, d'abord ce matin, 13 petits degrés, mais un grand ciel bleu. Pour l'instant, au-dessus de l'Institut français, le soleil s'est levé. Même temps finalement, ou presque, qu'en France, entre nuages et éclaircies. Le ciel sera particulièrement voilé en France, donc du Pays Basque jusqu'à l'est du pays. Ce matin, il fait 13 degrés à Rouen, 14 à Besançon, 15 à Bordeaux et Perpignan. Et cet après-midi, le mercure grimpe un petit peu. Comptez 17 à Brest, 19 à Paris, 24 à Lyon et 26 degrés à l'Odève.
Et oui, on est bien, Clara Lecoq-Réal. À Berlin, nous sommes à l'Institut français sur le coup d'âme. On va continuer à évoquer l'enjeu de ces élections législatives avec, pour la chancelière sortante Angela Merkel, l'obtention d'un quatrième mandat à la tête du gouvernement fédéral. Avec, pour les sociaux-démocrates menés par Martin Schulz, eh bien, la possibilité peut-être de revenir au pouvoir après 12 années passées dans l'opposition de 2009 à 2013 ou comme partenaire minoritaire au sein d'une grande coalition. C'était de 2005 à 2009 et depuis 2013. Mais avant, on va quand même parler de politique française avec Frédéric Seize, 8h16.